Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous allons entamer un périple dans l'Écriture qui va nous amener à considérer notre vie dans la foi, à considérer notre marche. Cet enseignement est utile et il a un but. Quelque chose qui est utile, frères et sœurs, c'est quelque chose qui va nous servir. Hein ? Donc, j'espère que ce que nous allons entendre restera gravé au fond de nos cœurs. Le but, c'est d'équiper les saints, d'équiper l'Église, que l'Église ait les yeux ouverts sur la réalité spirituelle qu'elle vit. Dans notre génération, nous avons besoin de cet enseignement. Les ténèbres tombent de plus en plus fortes sur la terre. Et l'Église n'a pas été laissée par son Seigneur sans défense. Je crois que ce passage-là est un passage de l'enfer ne prévaudrait pas contre l'Église. Et l'Église, c'est nous, c'est vous, c'est tous ceux qui confessent Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Les pierres vivantes, celles qui ont été amenées à la vie par le Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Vous aimez le Saint-Esprit ? Amen. J'aime le Saint-Esprit. J'aime l'œuvre du Seigneur. J'aime la couronne d'autorité que Jésus a sur sa tête. Il l'a vaincu pour être dans l'autorité. Amen. Et ce soir, nous allons aborder un enseignement qui, j'espère, va vous équiper, qui, j'espère, aussi va nous ouvrir les yeux, qui, j'espère, aussi va nous faire prendre conscience de la réalité spirituelle que nous vivons. Les temps sont fâcheux, les temps sont difficiles, les temps sont là, et l'Église du Seigneur, elle, doit être éclairée de la lumière du Seigneur. Amen. C'est la lumière du Seigneur qu'il nous faut dans cette génération. Frères et sœurs, cet enseignement serait vain s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix. Tout tourne autour de l'œuvre de la croix. C'est parce que le sang a coulé que l'Église peut être dans la victoire. Il y a quelque chose d'assez étonnant que nous pouvons lire dans l'Écriture. Frères et sœurs, aimons la parole du Seigneur. Sondons les Écritures. C'est elle qui rend témoignage de Jésus. Continuons à fixer nos yeux sur la parole avec un cœur bien disposé et un esprit bien disposé. Et Dieu nous éclairera encore plus. Il y a un passage de l'Écriture qui aurait dû lever l'oreille à l'Église. Nous avons regardé les évangiles. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est avant la naissance de Jésus, alors que Marie va aller à la rencontre d'Élisabeth, sa tante. Vous savez ce fameux passage où Marie va voir Élisabeth et les deux parentes sont face à face. Il nous est dit dans l'Écriture que Jean-Baptiste tressaillit par le Saint-Esprit de voir que Jésus était dans le sein de Marie. Alléluia. Et puis, il y avait Zacharie, le père de Jean-Baptiste et le mari d'Élisabeth, qui était un sacrificateur qui, cette année-là, avait sa fonction dans le temple et faisait partie du service de l'autel des parfums. Et il était donc en train de faire son service. Et voici que l'Esprit de Dieu va le saisir. Il faut bien écouter la prophétie de Zacharie pour comprendre pourquoi l'Église a besoin de voir la réalité du combat spirituel dans lequel elle est engagée. Il est dit dans Luc 1 et verset 67, ce passage qui est magnifique. Écoutez bien, c'est avant que le Christ naisse, voilà que Zacharie va prophétiser par l'Esprit Saint. Il va dire ceci. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. » Et voilà qu'il va continuer à dire ceci, qui est assez étonnant, parce que nos versions ne sont pas tout à fait pareilles dans les traductions. Je vais vous expliquer pourquoi vos traductions ne sont pas pareilles que les nôtres, peut-être. Mais vous allez voir qu'il y a là une astuce de traduction qui est bien rendue par Darby. Il est dit, « Car il a visité et sauvé son peuple et nous a suscité, certains disent, un puissant sauveur. » Mais voici que dans ma version, il est dit ceci, « Il a suscité une corne de délivrance dans la maison de David, son serviteur. » Alors pourquoi corne de délivrance ou pourquoi puissant sauveur? Est-ce qu'on peut s'approprier les deux termes? Certainement, oui. Mais le mot « kéra », ici, qui veut dire « puissant », c'est un mot que le grec n'avait pas et qu'il a inventé à partir d'un mot hébreu qui est « keren ». Et « keren », en hébreu, c'est la corne. Donc, il est dit « kéra soteria ». Ici, il est dit « un puissant sauveur » ou alors, on peut traduire « une corne de délivrance ». Une puissance de délivrance. Et cette puissance de délivrance s'est trouvée dans un puissant sauveur, qui est le Christ. Alléluia. Écoutez bien, frères et sœurs, que dans l'Écriture, le mot « salut » ou « sauver » il a plusieurs facettes. Il veut dire « tu as le salut, mais en même temps, dans ce salut, tu es guéri, et dans ce salut aussi, tu es délivré. » Le mot « sozo » en grec a ces trois interprétations, « guéri, sauvé et délivré. » Amen. Donc nous comprenons à voir que quand le Christ va apparaître sur la scène terrestre, il a déjà une mission bien établie, c'est que l'apôtre Jean, qui est pour nous l'apôtre de l'amour, est le seul qui va nous dire dans une de ses épîtres que Jésus a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. La confrontation y est, c'est clair. Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, mais il a été confronté à celui qui est le prince de ce monde et qui maintient en captivité beaucoup d'âmes. Si nous sommes honnêtes intellectuellement et si nous sommes honnêtes dans la foi, si nous regardons les évangiles et que vous regardez le ministère du Christ, vous le verrez. Sauver les âmes, guérir les âmes, délivrer les âmes. Sauver les âmes, guérir les âmes, délivrer les âmes. Jésus a passé beaucoup de temps à libérer les âmes d'esprits mauvais, d'esprits méchants, de démons. Il a passé beaucoup de temps là où nous pourrions dire peut-être que c'est une maladie. Jésus, lui, y voyait une œuvre de l'ennemi sur la personne. Nous aurons au cours de cet enseignement à voir divers passages quand Jésus agit devant de tels cas pour en tirer des enseignements profitables pour chacun d'entre nous. Pourquoi je dis ça? Parce que tôt ou tard, nous sommes confrontés à de telles manifestations. Une des stratégies de Satan, c'est de se cacher. Il se cache. Un esprit n'a pas de corps, mais un esprit, mauvais, méchant, cherche un corps pour y habiter dedans. Vous savez, ce passage, Jésus dit que quand un esprit mauvais est chassé, n'est-ce pas, qu'il est envoyé dans les lieux secs et arides, si tu remplis pas ta maison, sept esprits encore plus méchants rentreront, plus le huitième qui était parti, rentreront en toi. Donc les esprits cherchent des corps. Ils cherchent des corps pour y faire leur demeure. Et nous aurons à voir dans cet enseignement comment nous pouvons donner accès à ces esprits méchants dans nos vies. Par quels moyens les portes sont ouvertes. Souvenez-vous de ce que Jésus dit. Jésus, lui, ne te forcera pas dans ta volonté. Jésus est patient. Jésus est aimant. Jésus te respecte. Jésus ne va pas te forcer. Jésus ne va pas te violer. Jésus dit, si quelqu'un entre en frapper à la porte et qu'il ouvre, ça veut dire qu'il est assujetti à ta décision. Si tu ouvres la porte, il rentrera dans ton cœur. Mais si tu laisses la porte fermée, il ne pourra pas y rentrer tant que tu n'auras pas décidé d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Mais le diable, lui, il ne te demande pas ton avis. Il ne vient pas te dire « toc, 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 s'il te plaît, est-ce que je peux entrer chez toi, faire ma demeure ?» Dès que tu vas lui donner l'occasion de rentrer sur son terrain, c'est-à-dire dans le péché, il va pénétrer en toi, il va établir sa demeure pour te tourmenter, parce que le diable et les esprits méchants sont là pour tourmenter les gens. Donc, nous voyons que Dieu a suscité dans la maison de David une corne de délivrance, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps, une délivrance de nos ennemis. Au moment où je te parle, tu as des ennemis. Tu as un grand ami, c'est le Seigneur. Mais il y a des ennemis qui t'en veulent, des ennemis qui cherchent à te faire chuter, des ennemis qui cherchent à détruire ta famille au travers des membres de ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes sœurs. L'ennemi, il a une porte ouverte à partir du moment où la famille est entrée dans le péché. Mais Dieu dit, par cette prophétie, Ce Zacharie rempli de l'Esprit Saint, qui était devant l'autel des parfums. Dites-moi, frères et sœurs, l'autel des parfums, juste devant le voile du lieu très saint, c'est un autel carré, parfait, sur lequel, aux quatre bouts, il y a quatre cornes dans quatre directions différentes. L'autel des parfums, c'est le lieu par excellence de l'intercession, c'est le lieu par excellence où, là, nous pouvons faire monter nos prières vers Dieu pour que les âmes soient libérées. Et quand Zacharie prophétise, il a devant lui les cornes de la délivrance, les cornes de l'intercession, les cornes de la prière pour amener un peuple bien disposé pour Dieu. Selon ce qu'il avait dit par la bouche de ces saints prophètes qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder. Étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui, tous nos jours. Voilà la prophétie. Avant que le Christ naisse, Zacharie va prophétiser cela par le Saint-Esprit. Il n'est pas avec Marie, il n'est pas avec Élisabeth, il est au temple en train de faire son service devant l'autel des parfums. Là, l'Esprit de Dieu le saisit et il commence à prophétiser. Il prophétise quoi ? Il dit que Dieu va susciter dans la maison de David une corne de délivrance pour nous délivrer de tous nos ennemis. Il n'a pas dit de nos ennemis, il a dit de tous nos ennemis. Alors, on se rend compte là qu'il y a une interrogation pour nous. Qui sont ces ennemis ? Pourquoi une corne de délivrance ? Autant de questions que nous nous posons, auxquelles l'Écriture va répondre d'une manière très certaine. Je fais une référence à l'apôtre Paul qui va dire ceci, et c'est notre cher frère Paul qui va commencer à ouvrir les yeux de l'Église naissante. Vous connaissez ce passage qui est un passage qui est archi connu. Il va nous révéler le conflit et le combat spirituel. Dans Éphésiens 6, du verset 10 à 20, pesez bien les mots que vous allez lire. Je voudrais que quelqu'un puisse lire ce passage du verset 10 à 20 du chapitre 6 des Éphésiens.
Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable.
L'apôtre Paul dit au reste mes frères, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'Église et particulièrement à l'Église d'Éphèse. Mais cette lettre est lue dans toutes les églises du monde habité, elles sont transmises et toutes les églises connaissent cette lettre de Paul. Il va dire au reste mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que ce combat spirituel, n'est-ce pas, il ne peut pas se faire si nous n'avons pas tiré nos forces du Seigneur. Ne crois pas que tu vas combattre tes ennemis avec ta force humaine. Si c'est ça, tu vas te faire battre par les démons. Il faut que tu te fortifies dans la grâce toute puissante du Seigneur. C'est-à-dire, il faut que tu sois comme Marie, au pied du Seigneur pour recevoir les instructions. Il faut que tu reçoives tout don parfait, tout don excellent qui vient des Pères des Lumières. Il faut que tu sois, n'est-ce pas, dans la position de la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce passage. Tu ne peux pas aller attaquer les armées de l'ennemi sans auparavant te fortifier dans la grâce toute puissante du Seigneur. Et ne compte pas combattre l'ennemi si ta vie n'est pas en règle. Si dans ta vie, il y a des parcelles de ta vie qui sont soumises encore à l'ennemi. Fais attention, Satan, il ne lutte pas contre Satan. sinon on va se diviser. Ça veut dire qu'il y a là, pour nous, une interrogation. Comment pourrions-nous faire face à ce combat si nous n'avons pas mis nos vies en règle? Si nous pouvons passer sur ce passage, nous verrons tout à l'heure qu'un combat charnel se fait avec des armes charnelles, mais qu'un combat spirituel se fait avec des armes spirituelles. Donc ces armes, il faut nous les approprier, mais pour combattre l'ennemi, il faut que nous soyons clean. Pourquoi ? Parce que Satan ne lutte pas contre Satan. Sinon, son royaume est divisé. Satan va faire en sorte que si tu pèches dans ta vie et tu pratiques toujours les mêmes péchés, tu vas lui ouvrir la porte, il va rentrer. Au départ, tu vas rien voir. Mais tu vas commencer à comprendre que tu es de plus en plus attiré vers le même type de péché, vers la même façon de réagir par rapport à des situations que tu vis. Et tu vas comprendre à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais il est tapis. Il est tapis. Il se cache. Il excite la convoitise. Il se sert du terrain de la chair pour t'agiter. Et il est dit que la chair est faible, mais que l'esprit, lui, normalement, est bien disposé quand on appartient au Seigneur. Mais si tu n'es pas passé dans ta vie par une profonde conviction de péché par le Saint-Esprit, excuse-moi, j'y reviens. Si l'Esprit de Dieu n'est pas venu te convaincre de péché, de justice, de jugement, si comme... Écoutez bien. Jean-Baptiste, il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, Luc 3, verset 7. Il va leur dire, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et ne vous mettez pas à dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Au feu. Alors, ne dites pas Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Produisez des fruits dignes de votre repentance. Ne dites pas que nous avons comme père Abraham. Mais Jean-Baptiste va leur dire, produisez des fruits dignes de votre repentance. Il va leur dire ceci, parce qu'il n'en a pas fini. Voici que la foule l'interrogeait, et lui disant, que faut-il donc que nous fassions? Et répondant, il leur dit, que celui qui a de tunique en donne une à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vives fasse de même, et des publicains verts aussi pour être baptisés, et lui dire, maître, que faut-il que nous fassions? Il leur dit, ne persévérez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, et nous, que faut-il que nous fassions? Il leur dit, ne commettez pas d'extorsion, n'accusez faussement personne, contentez-vous de vos gages, etc., etc. Il va leur dire, que celui qui forniquait ne fornique plus, que celui qui volait ne vole plus, que celui qui mentait ne ment plus, que celui qui faisait de faux témoignages qu'il n'en fasse plus, produisez des fruits dignes de votre repentance et ne dites pas Jésus, Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et nous continuons, nous, à forniquer. Alors la parole de Dieu nous dit, produisez des fruits dignes de votre repentance. Adultère, fornication, plaisir sexuel, échangisme, lesbianisme, homosexualité, et j'en passe et des meilleurs. Et vous connaissez les brochettes de péchés, le listing des péchés, où les démons, ils viennent, ils s'introduisent dans les personnes et ils les poussent à s'avilir, à devenir des déchets humains. Tu peux pas continuer à dire Jésus, n'est-ce pas? Baptiste va leur dire, mais produisez donc des fruits dignes de votre repentance. Ne continuez pas à dire Jésus alors que vous êtes en train de pécher. Car là, vous êtes exposés à l'ennemi. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ça veut dire, en clair, soyez soumis au Seigneur, ayez une relation vivante avec lui, une communion d'amour avec lui, marchez d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé, marchez droitement dans vos cœurs, cherchant toujours plus la présence du Seigneur, en sainteté, en sanctification, sans laquelle, je vous rappelle, nul ne verra le Seigneur. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Ça y est, on est en guerre, n'est-ce pas? Oh, on est en guerre. Ça fait combien de siècles que Paul l'a dit? Et combien de chrétiens défaits dans leur vie? Combien de chrétiens qui sont dans des péchés inavouables? Combien de chrétiens qui sont dans des dépressions? Combien de chrétiens qui sont mal dans leur peau? Pourquoi? Parce que leur conversion n'est pas réelle. Peut-être qu'ils sont passés d'une région X à une religion Y. On est peut-être mieux chez les évangéliques, il y a plus belle louange, on est mieux, on se sent mieux. Mais ce n'est pas que tu te sens mieux, il faut que ton cœur change. Il ne faut pas que tes poils se hérissent parce qu'il y a une belle louange. Il faut que ton cœur change. Le conseil de Dieu, revêtis-toi de toute l'armure complète de Dieu afin que tu puisses tenir ferme contre qui? Contre les artifices du diable, les moyens de séduction du diable. Frères et sœurs, nous sommes en guerre. Les artifices. On dit quand une femme, elle se pomponne bien et tout, elle était très artificielle, cette femme. Jézabel était très artificielle quand elle a commencé à se pomponner pour aller séduire les anciens, pour tuer Naboth. Paul avait averti, hein, il avait dit attention, je crois que de la même manière le serpent a séduit Ève, je crains que... Contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Alors voilà, je vais parodier cela. Philippe, je t'en veux, je vais t'en mettre un sur la figure, tu vas voir, mon frère. Tu m'énerves! Non, c'est pas ça que je combats. Peut-être que le frère, il a un problème, mais moi, je ne vais pas combattre Philippe. Je vais combattre peut-être ce qui va animer Philippe. Mais pas Philippe, parce que j'aime Philippe. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce qui l'anime. Donc, on ne se trompe pas. On ne se bat pas contre la personne, on va combattre les esprits qui animent la personne. C'est-à-dire que tu t'abstiens de le tabasser quand même. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités. Et voilà que Paul commence à énumérer ce à quoi nous sommes exposés. Nous allons voir un petit peu ces passages, ce que ça représente, les autorités, les principautés, contre les dominateurs des ténèbres, contre la puissance spirituelle de quoi? De bonté? Non, de méchanceté. Ils te haïssent, tes ennemis. Ils te haïssent jusqu'à ce qu'ils te détruisent. Contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est causal. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Je vous signale, hein, que si vous n'êtes pas fortifié dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, là vous ne pouvez pas. Hein. Ce qui vient d'être dit là, ce n'est pas la peine que tu cherches même à comprendre. Hein. Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. Alors là aussi on aura à revenir sur tous ces mots. Hein, pas des demi-vérités, la vérité qui est dans le Seigneur. Il y en a qui aiment bien travestir la vérité pour s'approprier les mérites de la vérité. Horrible. Ayant saint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Oh, une cuirasse, ça me protège, n'est-ce pas? Si Christ vit en moi, alors je suis persuadé que la cuirasse de justice est sur moi. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Bouh! Pourquoi faire? par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui comme je dois. Donc l'Écriture nous dit que nous sommes en état de guerre, en état de lutte. Nous allons prendre un premier texte dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. L'Écriture nous révèle au cours de ces passages que nous sommes en état de guerre. Il est dit, car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Je ne combats pas avec ma force humaine. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Hein, il nous éclaire. Donc si ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que notre obéissance aura été rendue complète. En disant qu'en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, le mot combattre ici, c'est un mot grec qui veut dire, et vous allez vite le comprendre, stratégia, ça veut dire stratégique. Hein, vous avez compris, c'est de là que sort le mot stratégique. Et qu'est-ce que veut dire ce mot? C'est une expédition militaire, c'est un service militaire, c'est être en campagne, c'est être en troupe de campagne et c'est être dans une discipline militaire. Donc, nous n'allons pas combattre, n'est-ce pas, en étant indisciplinés. Nous allons combattre d'une manière disciplinée. Et nous voyons que l'apôtre Paul nous dit dans ce passage de 2 Corinthiens 10, il nous faut bien comprendre à nouveau que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Donc nous comprenons que nous ne combattons pas ni les frères, ni les sœurs, ni les gens qui sont dans le monde, mais ce qui anime les gens. Souvenez-vous que Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit à un moment donné à ses disciples? Quand un certain Jean, fils de Boanerges, a dit « Seigneur, fais tomber le feu sur eux, ils ne sont pas avec nous !» Et Jésus va se retourner et va leur dire « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ?» À ses disciples. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé pour vouloir la destruction de ces hommes. Vous êtes en train de combattre selon la chair et non pas selon l'esprit, va-t-il leur faire comprendre. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc Paul va nous montrer par là que notre combat, il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et le mot que nous avons trouvé dans Éphésiens 6, car notre lutte, il est spécial dans l'Écriture. Veuillez le noter, soulignez-le, parce qu'il est unique dans tout le Nouveau Testament. C'est le mot « palais » en grec, P-A-L-E. Et ce mot « palais » en grec, il a une signification bien précise. Ce mot « palais » en grec, c'est un combat, c'est une lutte d'athlètes et des combats tant de haut niveau. Ah, vous avez compris? Éphésiens 6, il nous est dit que le combat dont il est parlé là, c'est un combat d'athlète, c'est un combat de haut niveau. Le haut niveau, c'est Satan. C'est pour ça que ne va pas t'attaquer à Satan si tu n'es pas dans la fonction d'un athlète dans l'esprit. Et Paul nous rappelle que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Et le terme chair et sang qui est donné là, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est un classique du grec, Sarkai Emma, ça veut dire chair et sang, qui désigne l'homme humain, l'homme naturel. Donc c'est clair, Paul nous dit, tu ne luttes pas contre Yvette, tu ne luttes pas contre Francis, tu ne luttes pas contre Philippe, tu luttes contre les esprits mauvais. Mais il nous dit que nous devons lutter contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. À mot exceptionnel, combat exceptionnel. Le combat de la prière de la délivrance est un combat exceptionnel et de haut niveau. L'expérience, si le Seigneur te le permet, te fera comprendre beaucoup de choses quand tu seras devant une personne à être libérée par le Seigneur. Parce qu'elle aura fait entrer dans sa vie beaucoup de choses qui vont se manifester. Tout à l'heure, mon frère, t'as parlé de quelque chose qui était que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu luire une grande lumière. Quand la personne qui est enténébrée verra luire la lumière du Saint-Esprit, vous verrez les réactions qui vont se passer. Pour l'instant, c'est tout calme. C'est tout paisible. Ça va bien. Alléluia, amen. Tu tapes des mains. Ça va bien. Des fois, ça va mal. Mais des fois, ça va bien. Et tu ne te sens pas trop bien, des fois. Et des fois, tu lèves les mains quand même. Parce qu'il faut faire comme les autres. Mais il y a des gens pendant des années qui ont fait ça. J'en ai vu. Et qui ont été libérés par le Seigneur. Le plus grand camouflage de Satan, écoutez bien, le plus grand camouflage de Satan, c'est la religion. C'est l'homme et la femme religieuse. C'est son plus grand camouflage. Il est bien dans un homme ou une femme religieuse, qui est conforme au moule, le veau d'or, l'uniformité. Vous savez que vous êtes exceptionnel aux yeux de Dieu ? L'unité ne veut pas dire uniformité. L'uniformité, c'est... On paraît tous être la même chose. Non. C'est l'unité dans la diversité qui est intéressante, pas l'uniformité. Et Satan, il sait se camoufler dans les églises. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit ? Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et Satan a dit, moi, je détruirai son église. Comment ? Mais vous savez bien ce qu'il est dit dans l'Écriture. Il y a un faux prophète, faux docteur, fausse église, la Babylone, celle qui a des caractéristiques soi-disant de spiritualité, mais qui en réalité est infestée de démons. Il y a un auteur, un écrivain des années 1950, j'ai plusieurs bouquins chez moi de ça, et c'est Stéphane qui m'a prêté un bouquin de Daniel Robs. Il disait que dans les synagogues en Israël, pendant les jours de sabbat, les démons ils étaient assis sur les jambes des juifs. Ah oui. Vous ne rappelez pas quand Jésus était le jour du sabbat dans la synagogue ? Tout le monde disait Bishem Adonai, etc. Et puis Jésus, il y en avait un dedans. Hein. Et pourtant, il est en train de dire les bénédictions. Hein. Et dans l'église, quand il y a la louange et l'adoration, que le Seigneur il commence à descendre. Nous, on n'est pas fous. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à agir. Hein. Nous, on ne fait rien pour que ça se manifeste. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il va remuer les choses parce qu'il ne veut pas que tu restes dans ton état. Hein. Paul dit que c'est un combat d'athlète. Je vais peser mon mot. C'est un combat d'hommes et de femmes soumis au Seigneur. Parce que Paul dit que ceux qui luttent dans l'arène combattent selon les règles de l'arène. C'est juste, hein ? Mais nous sommes dans une arène, mais nous ne combattons pas selon les règles de l'arène humaine. Nous combattons avec les règles spirituelles. Et il nous a dit contre quoi nous combattons ? Contre les principautés, les autorités, les dominateurs de ténèbres. On va y revenir avec tous ces esprits-là. Vous allez voir comment nous sommes noyautés. Le monde entier, je vais vous dire une chose. Le monde entier, c'est une toile d'araignée tissée par Satan. C'est clair. Et on va le démontrer dans l'Écriture. Satan, il a tout perverti. Moi, je suis heureux parce que la statue de Daniel, elle est en train de tomber très, très, très forte parce que le système communiste est tombé, le système capitaliste, il est en train de s'effondrer, le système tiers mondialiste, il est en train de crever, excusez-moi l'expression, et le monde est en train de s'affaisser. Réjouissez-vous parce que son règne vienne au Seigneur, parce qu'il est à la porte. La statue de Daniel, elle est en train de basculer très fortement. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et il nous emportera avec lui. Mais auparavant, frères et sœurs, si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons faire face à nos vies, à nos obligations devant Dieu, à une honnêteté personnelle, de ne pas avoir honte de dire ce que nous sommes, ce qui nous agresse, ce qui nous met mal à l'aise, parce que nous ne voulons pas rester dans cet état. Le temple, il doit être balayé. Les impuretés, les souillures doivent sortir du temple. Regardez dans le livre des Chroniques, vous verrez bien le réveil d'Ézéchias. La première chose que le roi Ézéchias fait, il donne ordre aux Lévites d'aller purifier le temple. Il sort toutes les ordures du temple, il les jette dans le cédron. Ils vont à nouveau purifier le temple. Frères et sœurs, il faut que nous purifions le temple que nous sommes. Tu sais, mon frère, ma sœur, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, mais moi, je vais te dire une chose. Il y a un problème avec ça. On dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne le vois pas comme ça, hein. En termes de quantité. Je vois mon cœur comme une espèce de grand fromage rond, n'est-ce pas, où j'ai permis au Seigneur de commencer à planter sa seigneurie sur moi. Mais il y a encore des petits coins en nous où ce n'est pas encore soumis à la seigneurie de Christ. Seigneur, tu peux rentrer dans ma vie. Seulement, tu ne rentres pas dans le placard, tu ne rentres pas dans le débarras et tu ne rentres pas dans ma chambre. Je te laisse rentrer là où je veux que tu rentres. Le reste, c'est encore à moi. Je ne vois pas être rempli du Saint-Esprit comme étant rempli d'une mesure de l'Esprit. Je me vois que mon cœur appartient totalement au Seigneur. Alors là, oui, je suis rempli de l'Esprit-Saint. Qu'il n'y ait pas de faille en moi. Alors, frères et sœurs, il y a un petit problème que nous faisons tous, parce que nous avons tendance à prendre un verset biblique et de nous approprier de ce verset sans regarder les autres versets qui viendraient le conforter. Alors, Marc 16:16, si je vous le demande, vous allez tous me dire, celui qui aura cru, qui aura été baptisé, sera sauvé, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues, même s'ils prennent un breuvage, un poison, ça ne leur fera pas de mal. Mais celui qui a cru, qui aura été sauvé et qui sera baptisé, et on croit qu'avec ça, qu'on peut aller, n'est-ce pas, taillot au taillot, on va aller à la bagarre contre le diable. Je vous donne un conseil, fortifiez-vous dans sa grâce toute puissante, revêtez toute l'armure complète de Dieu, combattez selon les règles du combat spirituel, sachez à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est une légion? Est-ce que c'est un petit groupe d'éclaireurs? Est-ce que c'est... Faisons attention, frères et sœurs, hein, à la façon dont nous allons combattre, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas partir de ce verset de Marc 16:16 pour dire maintenant, allez, vous comprenez, écoutez. Alléluia! Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu en Afrique, à Abidjan. Une réunion d'évangélisation, il y avait peut-être 7, 8 000 personnes ou 10 000 personnes, je ne sais pas. Il y avait un serviteur de Dieu, nigérian. Il a prêché, mon pauvre, il a prêché, il a fait un appel. Tout le monde est venu. Alléluia, allez, je prie pour vous, vous êtes enfants de Dieu. Maintenant, il a dit, allez, combattre contre le diable. J'ai dit, il est fou, lui. Il est fou. Des gens qui n'ont même pas encore fait un pas avec Jésus, tu vas leur demander d'aller combattre le diable, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Si dans nos combats spirituels, le Seigneur n'était pas avec nous, on serait balayés comme des fétus de paille. Il a une telle puissance, Satan. Ne le méprisons pas, ne le négligeons pas, mais surtout, frères et sœurs, n'allons pas faire remuer ce qu'il n'y a pas à remuer. Si nous sommes, n'est-ce pas, dans le Seigneur, si nous marchons clairement avec lui, fondés, enracinés en lui, alors le Seigneur nous utilise, n'est-ce pas? Il est dit que Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3 à 7, il va dire ceci, « Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ, car nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et nous voyons là que Paul dit, n'est-ce pas, qu'il y a des règles pour celui qui combat dans la lice. En effet, le combat charnel se fait avec des armes charnelles, mais un combat spirituel, il se fait avec des règles spirituelles. Et le mot ici, n'est-ce pas, à nouveau, le mot combattre que nous voyons cité une ou deux fois là, c'est le mot athléo. Athléo en grec, ça veut dire aussi athlétique. Athléo, qui veut dire lutter, lutter contre quelqu'un, soutenir une lutte en parlant d'une bataille, être athlète, être lutteur, combattant, homme exercé, qui a de l'expérience de la guerre. Et Athléo, qui a de l'expérience de la guerre. Le combat, il est un combat de haut niveau, un combat d'athlète. Il faut que tu aies de l'expérience pour engager ce combat. Tu combats ? Tu prends pas un pistolet. Tu commences pas à lutter contre la personne. Tu commences à lutter contre les esprits qui animent la personne. Alors maintenant, nous allons regarder, si vous voulez, les principautés, hein, cette puissance spirituelle de méchanceté mauvaise qui est dans les lieux célestes. Et Paul va citer plusieurs types de puissance mauvaise et méchante. Il va commencer par les principautés. Les principautés, dans cette lettre de Paul, ce sont les princes, ceux qui ont une autorité, magistrats. C'est en grec archon. Archon, c'est celui qui est prince ou magistrat, qui est une principauté. Les puissances mauvaises qui agissent sur et à travers les autorités humaines. Ce sont des principautés qui coiffent le pays. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Chaque pays au monde est coiffé par des principautés sataniques. Il n'y a pas un pays au monde qui ne soit pas chapeauté par ces principautés. Vous savez que Satan n'est pas le créateur, ce n'est qu'une créature. Nous verrons d'où la sortie tous ces esprits, tous ces démons. Il y a plein d'interrogations, mais on y répondra au cours de l'enseignement. Il est dit que les principautés, ce sont des princes qui sont sur les pays. Regardez bien, frères et sœurs. Déjà, on en a vu un, c'était Pharaon, n'est-ce pas ? Avec Israël. C'était un type de Satan. Il y avait le trône de Satan en Égypte. Dans nos civilisations, regardez l'histoire des civilisations. Rome, plus près de nous, ceux qui avons connu la guerre de 39-45, Hitler. Vous savez qu'Hitler, c'était un despote occulte et sataniste. Sa femme Eva Braun, elle était spirite. Pinochet, l'extrême droite. Pol Pot, les Khmers rouges. Tiens, j'ai écouté à la radio ce matin. J'écoutais que celui qui a massacré des millions de Cambodgiens, il a reconnu les faits, il demande pardon, mais il sait très bien qu'il ne va pas être pardonné. Il le dit lui-même, mais il a reconnu le massacre. Qui les a animés ? Mais qui a mis cette puissance de méchanceté dans le cœur pour tuer ? Nous verrons qu'un des mots de Satan dans l'Écriture, le mot meurtrier, permettez-moi, je déborde, mais je vais vous le dire, le meurtrier dans le grec, c'est anthropos kneino. Ça veut dire celui qui tue les hommes. Mais est-ce qu'il les tue physiquement ? Non ! Il les tue spirituellement. Il les mène à la seconde mort. Il est meurtrier dès le commencement. Frères et sœurs, soyons intelligents dans la parole. Fixons nos yeux sur la parole. Laissons l'Esprit de Dieu nous enseigner. Satan, il va te pousser à la mort physique par la dépression, par l'alcoolisme, par la drogue. Mais c'est pour que tu perdes ton âme et ton esprit, pour que tu viennes avec lui en enfer. Et ça, c'est la seconde mort séparée pour l'éternité de Dieu. Dans notre pays si beau, la belle France, magnifique pays où tous les touristes viennent, c'est beau la France. Oui, c'est beau la France. Les paysages sont beaux parce que Dieu les a créés. Mais les Français, excuse-moi, j'en suis un. Mais je m'excuse. Si vous regardez aujourd'hui notre gouvernement français, il est 90% franc-maçon. La toile d'araignée, elle est tissée sur la France. Et puis, les pays d'Afrique, avec la Rose-Croix, vous n'êtes pas mieux lotis à la franc-maçonnerie. Hein, vous êtes dedans, en plein. Tous les pays au monde, le prince Charles, l'ordre de la Jarretière, c'est franc-maçonnique. Skull, elle, je ne sais pas quoi, les crânes et les os, Bush, papa Bush, son père, l'université de Yalte, franc-maçonnique. Clinton, franc-maçonnique. Bush, franc-maçonnique. La toile d'araignée est tissée sur tous les pays. La reine Elisabeth. La reine Julia d'Hollande. Pareil. Vous voulez le listing? Il y a une stratégie de Satan. Vous avez vu? Une stratégie. Une stratégie. Pourquoi les nations s'agitent-elles ainsi? Psaume 2. Elles se consultent ensemble pour aller contre l'Éternel et son oint. Psaume 2. Pourquoi? 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 Ayons de l'intelligence. Ne mourons pas imbéciles. C'est une toile d'araignée. Et le Seigneur le savait. Parce que le Seigneur n'a pas laissé l'Église sans armes. Amen. Mais j'ai envie de vous communiquer ces choses. J'ai envie que vous réalisiez dans quel contexte vous êtes. Quand vous êtes à votre travail, les gens qui vous agressent, les gens qui vous jugent mal, qui vous veulent du mal, qui sont jaloux de vous. Les principautés, donc les princes qui coiffent les pays. Exemple, et on va en donner un exemple. Daniel 10-13, vous connaissez ce passage. Daniel, il est en train de jeûner et ça fait 3 semaines qu'il jeûne, il ne mange pas de pain et pas de vin et il ne sait pas où ni rien du tout. Et tout d'un coup, le 24e jour du premier mois, il était au bord du grand fleuve qui est dit Hiddekel. Et il levait les yeux et il vit. Voici un homme vêtu de lin, et ses reins étaient ceints d'or d'Ouphaz. Son corps était comme chrysolite, et son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence de leur impoli, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais un grand tremblement tomba sur eux, ils coururent pour se cacher. Et moi, je fus laissé seul, et je vis cette grande vision. Il ne me resta aucune force en moi, et mon teint frais fut changé en corruption. Je ne conservais aucune force. J'entendis la voix de ses paroles, et comme j'entendais la voix de ses paroles, je tombai dans une profonde stupeur sur ma face, et ma face contre terre. Et voici, une main me toucha et me secoua et me mit sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et comme il parlait avec moi, disant cette parole, je me tiens debout tremblant. Il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, un des premiers chefs, vint à ma secours et je restai là auprès des rois de Perse. Frères et sœurs, quel combat! Quel combat! L'ange Gabriel, même qui n'a pas eu le dessus, il a fallu qu'il fasse appel à Michaël parce que la principauté du royaume de Perse lui résistait. Satan, il avait mis son trône là-bas. L'empire perse était donc noyauté. Voyez-vous, frères et sœurs, l'Écriture nous montre de telles scènes. Si c'était valable dans l'Ancien, croyez-vous pas que c'est valable dans le Nouveau, aujourd'hui, où l'Écriture nous dit, et le Saint-Esprit dit que dans les derniers temps, les temps seront fâcheux, les hommes ils seront comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, rebelles, avares, outrageux, ennemis du bien, c'est le déferlement. Donc nous voyons que l'Écriture nous donne de telles scènes. Daniel 10 et Ézéchiel 28 aussi, vous pourrez le mettre, Ézéchiel 28, versets 1 à 19. Donc, nous constatons que ces principautés, ce sont des grades hauts en puissance que Satan a mis pour dominer les pays. Ensuite, il y a les autorités. Les autorités, ce sont des exousias. Exousias, en grec, veut dire pouvoir d'un chef. Ce sont des pouvoirs qui agissent au lieu et place des principautés. C'est ce qu'on appelle les délégations de pouvoir. Écoutez, dans le monde satanique, ils ne se font pas de cadeaux. Dans le monde satanique, les démons ne se font pas de cadeaux. Ils veulent toujours monter en puissance. Exousia, d'après l'apôtre Paul, ce sont des démons de haut rang, n'est-ce pas, qui ont délégation de pouvoir. Et vous retrouvez ça dans Éphésiens 1:20, 21-22, dans Éphésiens 2:2, dans Colossiens 1:13. Autorité. Puis, au haut de la pyramide, Satan, le prince de l'autorité de l'air, chef de l'autorité de l'air. Mais un prince déchu. Déchu. Les royaumes terrestres lui appartiennent. Matthieu 4, 8. Job 1, versets 6 à 7. Vous vous rappelez cette scène de Job où les fils de Dieu sont réunis devant l'assemblée de l'Éternel et puis Satan il vient dans l'assemblée de Dieu. Ça, je me demande pourquoi Dieu continue à l'accepter devant sa face. Il vient et il va poser la question à Satan. Mais d'où viens-tu ? Je viens de me promener sur la terre. Ça veut dire que la terre lui appartient. Jésus l'a dit qu'il était le prince de ce monde. Jésus l'a reconnu. Cette terre lui appartenait, pour l'instant. Mais Dieu est en train de monter une armée d'hommes et de femmes qui ont leur foi en Christ. C'est l'Église. Et au sein de ce royaume des ténèbres, il y a une lumière qui est en train de jaillir. Tout doucement, elle se lève. C'est l'Église. Tu devrais dire, je suis heureux d'appartenir à Jésus. Tu peux le dire fort et j'ai envie de t'entendre. Parce que ça va être la lumière qui va jaillir des ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière du pays de Zabulon, Galilée, ancienne. Satan, les royaumes terrestres lui appartiennent, mais il est une créature et non pas le créateur. Donc, pour cela, parce qu'il est une créature, il a besoin, n'est-ce pas, d'un état-major. Cet état-major, c'est les principautés, c'est les autorités. C'est les dominateurs des ténèbres. Et là, frères et sœurs, c'est une catégorie de démons qui sont plus proches de nous. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'ils font, pasteurs, qui sont si proches de nous ? Ben, ils ont un rôle, c'est d'aveugler la pensée des incrédules. 2 Corinthiens, chapitre 4. On va passer du verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Il est dit, « Et si aussi notre évangile est voilé ?» Il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Ils sont aveuglés, ils ont un voile. Il y a des gens qui viennent entendre l'évangile et qui sont voilés, qui ne comprennent rien à l'évangile. Frères et sœurs, comment se fait-il que les gens du monde, ils sont capables de lire tous les livres qui sont dans les médiathèques ou dans les bibliothèques et que quand ils prennent la Bible, ils n'y comprennent rien? Ils sont voilés. Ils sont voilés. Donc ça, ce sont les dominateurs des ténèbres. C'est ceux qui, une catégorie qui sont beaucoup plus proches de nous. C'est principauté, autorité, dominateur des ténèbres, et ensuite on va trouver les esprits mauvais et les esprits méchants, et ça sera donc notre prochain enseignement. Nous pourrons ainsi voir quels sont leurs rôles et auprès des personnes et des gens et pourquoi ils ont des possibilités de rentrer dans les corps si chacun des personnes ou chacune des personnes ouvre leur cœur au péché et permettent à ces esprits de pénétrer dans leur vie. Amen. Voilà, ça c'est le premier jet. L'enseignement sera long, mais ce que je veux vous faire comprendre, avec l'aide du Seigneur, c'est que dans l'Écriture, tout ce combat spirituel nous est montré. Et l'Église ne doit pas être aveuglée. Elle doit prendre conscience de toutes les armes de Dieu, de toute l'armure de Dieu, pour combattre au temps mauvais, après avoir tout surmonté, tenir ferme en ayant toute l'armure de Dieu. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.